when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Salut, c'est Victoire Tuillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Et là, qu'est-ce que j'entends ? Non, mais attends, qu'est-ce que j'entends à ton avis ? Eh ben, je te donne en mille, binge audio.
Si tu as 9 ans et demi, tu ne pourras pas comprendre cette vidéo. À moins que tu aies consommé un max de drogue.
Is this real life ?
Yeah, this is real life.
Salut, c'est Thomas Rozek. C'est fascinant de voir comment ni les années qui passent, ni les habitudes qui changent ne semblent avoir de prise sur un grand classique de la célébrité. Le fait pour des personnalités a priori extérieures à l'art délicat de l'humour scénique d'embrasser subitement, quoique souvent très brièvement, une carrière d'humoriste. On en a vu des acteurs, des animateurs télé, des célébrités en tout genre se jeter à l'eau armés d'une série de blagues plus ou moins gênantes écrites par de vieux routiers de la chose. Et comme on pouvait s'y attendre, les nouvelles étoiles de notre monde désormais numérique, celles et ceux qui ont percé sur le web, n'échappent pas à la règle. On en retrouve donc certains de la première génération des youtubeurs lancés sur les traces héroïques de Jerry Seinfeld, de Pierre Desproges et d'Éric André, ou plutôt sur celles tout aussi héroïques, quoique pas forcément pour les mêmes raisons, de Julien Courbet, d'Arthur ou de Thomas Sisley. Le plus en vue en ce moment, c'est Norman Tavo, l'ex-ado rigolo de YouTube qui vient de signer un second spectacle disponible sur une grande plateforme de vidéos à la demande et qui est la cible depuis quelques semaines d'une insistante polémique pour ses plaisanteries jugées au mieux datées, au pire carrément pétri de stéréotypes racistes. On a eu envie de comprendre comment tout ça s'était mis en place et c'est ce qu'on va faire avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invité pour en discuter, c'est Vincent Manilev, fin connaisseur de la chose numérique. Il a notamment signé le livre YouTube Derrière les écrans, c'était paru aux éditions Le Mieux. Je lui ai demandé, histoire de prendre les choses du début, tout simplement, c'est qui Norman ?
Norman fait des vidéos, c'est le nom de sa chaîne, mais il s'appelle Norman Tavo, c'est le troisième youtubeur français, il a 12,2 millions d'abonnés, il est juste derrière Squeezie et Cyprien, et c'est vraiment une figure un peu tutélaire du YouTube en France. C'était un des premiers à émerger d'abord sur Dailymotion, puis sur YouTube, et c'est une star. C'est globalement, voilà, c'est une star de YouTube. Toutes les personnes, je pense, qu'on va dire, qui ont un peu moins de 30 ans le connaissent, ont déjà regardé ses vidéos. Voilà, il est peut-être moins populaire chez les très jeunes maintenant, mais globalement, il a fait partie de ces personnes qui ont popularisé le métier de YouTuber. Et il a vraiment défriché le terrain. Hein. Globalement, quand il s'est lancé, on savait pas encore qu'on pouvait en vivre. C'est vraiment une personne ultra importante, au même titre que Cyprien, Squeezie, Natou, Angel Phoenix.
Qu'est-ce qu'on trouvait dans ses vidéos quand il s'est lancé ? Qu'est-ce qui a fait, en gros, qu'il ait eu le succès qu'on lui connaît ?
Norman parlait vraiment au départ, depuis son appartement mal rangé. Il se filmait face caméra avec un mauvais éclairage. Il avait un teint un peu blafard même. Il se mettait pas très en avant. C'était pas très travaillé les caméras à l'époque. En plus, c'était pas forcément ultra HD, etc. Mais il parlait de sa vie de jeune adulte, d'enfant un petit peu coincé dans un corps d'adulte où il y avait une espèce de transition un peu étrange pour lui. Donc il parlait de ping-pong parce qu'il a fait du ping-pong, il parlait de virilité, il parlait de devenir un adulte. Un de ses sketchs les plus connus, c'était sur les bilingues.
Les mecs qui sont bilingues, enfin ceux qui parlent bien anglais, en général, ils se la racontent pas trop. Oh !
Il touchait à des thèmes de jeune adulte. Voilà, vraiment d'entrer dans la vie active, les questionnements, sur la timidité, sur la pornographie aussi, il parlait des sites pour adultes, etc. Il jouait un peu le rôle de quelqu'un d'un peu timide, un peu fragile, de pas très musclé, on va dire, et qui essayait de trouver sa place quand même dans le monde des adultes, quoi. C'était un peu ça, Norman, au tout début.
Et après, comment ça a évolué au fil du temps avec le succès? Est-ce que son discours, sa manière de faire ont changé?
Globalement, c'est vrai qu'à partir du moment où il est devenu millionnaire en abonnés, eh ben, il y a eu tout un tas de sollicitations. C'est vrai que il a de plus en plus quitter son appartement, on va dire, commencer à avoir un rôle au cinéma avec Maurice Barthélémy dans un film qui a malheureusement pour lui pas bien marché, qui s'appelait Pas très normal activité. Il a commencé, c'est ça, à avoir des partenariats. Il a fait un peu un tour du monde dans plein de pays grâce à une marque de chocolat, si je me souviens bien. Et globalement, bah, il a commencé forcément à changer un peu de thème, parce que c'est-à-dire que c'était plus un adulte comme les autres. Forcément, à partir du moment où tu commences à gagner pas mal d'argent, il y a eu un changement de dimension, donc forcément les thèmes qui allaient avec changeaient un petit peu. Après, globalement, il essayait quand même de rester un petit peu dans des contenus très terre-à-terre pour pas perdre ce lien avec ses abonnés. Parce qu'à partir du moment où on commence à faire des vidéos qui parlent plus à ses abonnés, bah, là, il y a un décalage qui se crée et on peut perdre un petit peu leur intérêt, quoi. En 2015, il a commencé à faire son premier spectacle qui s'appelait Norman sur scène. Il était déjà accompagné de Kader Aoun, qui est un des plus gros noms de la scène stand-up. C'est quelqu'un qui a déjà produit des grosses stars du milieu. Et lui, bah, globalement, il y avait déjà cette envie chez lui de montrer qu'il avait grandi et assumé sa position d'adulte, tout simplement. Moi, après, dans mes souvenirs, effectivement, ce spectacle-là, il m'avait pas marqué par son énorme maturité. Globalement, je retrouvais le même Norman que dans ses vidéos, sa vie de jeune adulte, un peu loser, etc. Il avait fait simplement une blague sur le site porno Jackie et Michel. Mais là encore, c'était surtout les enfants qui rigolaient dans la salle parce que eux connaissaient cette référence-là, contrairement à leurs parents qui les accompagnaient, qui, eux, n'avaient pas forcément compris le clin d'œil. C'est assez marrant de voir aujourd'hui, avec ce second spectacle, de le voir encore dire « Ah, cette fois, c'est le spectacle de la maturité. Ça y est, je suis vraiment adulte. » Alors que il y avait déjà eu cette ambition il y a maintenant 5 ans.
Ce deuxième spectacle, on le retrouve maintenant sur une plateforme en plus très exposée. Toi, tu l'as regardé en entier, ce spectacle, t'en as tiré un article que j'invite celles et ceux qui nous écoutent à lire sur Medium. Qu'est-ce que tu en as retenu? Qu'est-ce qui t'a frappé dès le début de ce spectacle?
Ce qui m'a frappé dès le début, c'est l'impression d'avoir affaire à un humoriste qu'on aurait vu chez Laurent Ruquier, qu'on aurait vu dans Les Grosses Têtes. Quelqu'un qui avait l'air de prononcer des phrases, de faire des blagues qui ne correspondaient pas à son élément naturel, qui était quand même assez bon enfant sur YouTube. Il y avait vraiment un décalage et j'ai vraiment senti un peu la patte de Kader Aoun, j'ai l'impression, derrière ses textes, et aussi de Mathieu Madénian qui apparemment a aidé à l'écriture aussi. Il y avait un décalage comme ça, puis l'impression qu'il avait l'air d'avoir le sentiment qu'il fallait provoquer pour faire rire, qu'il fallait provoquer pour montrer qu'il avait bien grandi, que voilà, il pouvait oser raconter des choses, sauf bah, que globalement, ces tentatives-là, ça tombe assez à plat, en fait. C'est-à-dire que il veut tellement devenir adulte dans son propos qu'il en devient un peu vieux, en fait. Il parle des réseaux sociaux qui nous rendent débiles, il parle de Kim Kardashian comme pourrait en parler Laurent Gérard. Enfin, il y a un décalage complet entre ce que lui est dans sa génération et ce qu'il dit sur scène. La blague, entre guillemets, qui ressort le plus, c'est celle autour de Fatoumata Bond, comme il dit. Hein. Il expliquait, en se trompant d'ailleurs sur le sujet, que James Bond allait être remplacé par une femme noire. Et il disait, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin avec la lutte contre le racisme, etc. Donc déjà, le sujet de base, il ne le maîtrisait pas. Et en plus, il a utilisé comme ressort comique des stéréotypes. Et c'est ça qui est un vrai problème. Et puis dans le reste du spectacle, il y a d'autres comme ça, moments au détour de phrases, de blagues, où il va appuyer justement sur des stéréotypes, notamment quand on parle des chauffeurs Uber, etc. Et en fait, lui, au lieu de désamorcer ces clichés-là, il va faire sa blague sur ces trucs-là, en misant sur le second degré qui serait compris par son public, etc. Sauf que ça fonctionne pas du tout, et c'est vrai que mis bout à bout, tout son propos, moi, il m'a dérangé. Effectivement, et les personnes qui l'ont regardé, il y a eu un certain nombre de personnes concernées qui ont pris la parole sur ces blagues-là et qui ont expliqué, bah non, dire Fatoumata Bond, c'est pas possible en 2020 de raconter ça, et ils expliquaient très bien pourquoi.
Comment lui s'est défendu, parce que c'est assez intéressant de voir quelle posture il a adoptée pour répondre à ces critiques qui ont commencé à circuler et qui ont pris de l'ampleur ces derniers jours, ces dernières semaines.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que il a vraiment fallu attendre pour qu'il en parle, parce que globalement, ça faisait déjà quand même quelques semaines que le spectacle était sorti, que des personnes avaient vu cet extrait-là. Ce qui s'est passé, c'est que le compte Instagram Décolonisons-nous en a parlé dans un post. Ils ont expliqué très bien le sujet et pourquoi ça posait problème. C'était très pédagogique. Ça a été repris sur Twitter par un certain nombre de personnes influentes. Et à partir de là, en fait, les médias ont commencé à faire des articles là-dessus. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on sorte, entre guillemets, des réseaux sociaux pour que Norman réagisse. Et donc lui, il a réagi en story, il a reconnu que cette blague sur James Bond était très malvenue, qu'il aurait pas dû la faire, mais qu'il voulait dénoncer la culture un peu de la bonne conscience que se donnaient les studios, ce qui, à mon sens, ne transparaît pas du tout dans le passage, ou alors je n'ai pas le degré de lecture, ou les connaissances ou l'intelligence pour le discerner, mais pour moi, ça transparaissait pas du tout. En revanche, il a dit que lui, l'accusé de racisme, il estimait que c'était ridicule parce que tout au long du spectacle, il dénonce le racisme. Puis dans ses excuses et son explication, il utilise plein de mots-clés, contrôle aux faciès, privilège blanc. Enfin, je pense qu'il a un peu préparé ça pour un peu, comme on dit, name-dropper certains concepts assez importants. Et voilà, il dit, faut que les personnes regardent mon spectacle, c'est ridicule de m'accuser de racisme, on peut pas douter de la sincérité de son combat contre le racisme. En gros, c'est ce qu'il dit. Après, voilà, globalement, si on regarde le spectacle, ça transparaît pas non plus son engagement lui-même. À un moment, il ironise, il dit « Oui, j'ai posté un carré noir au moment où il y a eu le mouvement Black Lives Matter. J'ai posté un carré noir sur Instagram. » Il dit « Ouais, je suis courageux, en gros. » Alors que ce carré noir, il a aussi été un peu critiqué parce qu'il y avait un côté engagement un peu de façade, un peu facile sur les réseaux sociaux pour soutenir la cause. J'étais assez surpris de sa défense, de sa réponse. On le sent un peu énervé et on sent qu'il se contient dans sa réponse. Mais je pense pas qu'il ait énormément convaincu là-dessus.
Est-ce que ça illustre, toi qui connais bien l'univers de la culture YouTube, est-ce que ça illustre la difficulté pour les créateurs sur YouTube à sortir de ce cadre-là, ou en tout cas à prolonger leur carrière peut-être en dehors de ce qui les a façonnés, de grandir en dehors de YouTube? Alors, est-ce que c'est une dérive un peu isolée et que les autres s'en sortent mieux finalement?
C'est un sujet très intéressant parce que en fait il y a un peu tous les cas de figure au final. Quand Natou, c'était en 2015 je crois, elle était chez Ruquier, il y allait à Salamé qui lui demandait « mais vous n'allez pas faire YouTube toute votre vie ?» Et à l'époque, c'est une question qui avait beaucoup énervé, parce qu'il y avait la volonté d'affirmer le métier de YouTuber comme un métier à part entière, quelque chose qui allait durer. Aujourd'hui, la question, elle se pose réellement. Et on voit des cas de figure très très différents. Si on reprend un peu cette première génération, bah on voit par exemple Cyprien. Je trouve que Cyprien, c'est un cas intéressant parce que Cyprien continue à faire des vidéos un peu classiques sur sa chaîne, mais à côté il va faire de la bande dessinée, il va faire des courts-métrages, il va faire des aventures audio, il va faire une émission sur Twitch. Je trouve qu'il arrive à toucher à différents trucs tout en ne perdant pas le cœur de son audience, mais il va quand même essayer, il va trouver les financements qu'il faut, prendre le temps qu'il faut pour sortir un projet, etc. Natou, elle est quand même encore très YouTube. Je m'interroge un peu sur elle, sur ce qu'elle a envie de faire. Elle a sorti un livre il y a quelques semaines. Elle a fait une émission, un show de Noël pour YouTube avec sa maman. Mais il y, y a des cas vraiment, vraiment intéressants. Mr. V, par exemple, Mr. V, qui est un autre gros youtubeur, lui, il s'est plongé dans le milieu du rap. Donc, il a sorti deux albums qui ont été, je trouve, assez bien accueillis parce que c'est une passion qu'il a, c'est quelque chose qui lui tient à cœur et il a fait ça sérieusement. Et de temps en temps, sur YouTube, il va faire une vidéo. Mais YouTube, ça devient quelque chose d'événementiel, ça devient pas quelque chose de quotidien. Je sais qu'il travaille sur un long métrage aussi. Voilà, en fait, c'est une espèce d'équilibre à trouver, c'est-à-dire toujours garder un pied sur YouTube pour garantir un peu une présence, être sur les réseaux sociaux aussi pour voilà continuer à se montrer et à exister. Et à côté, en parallèle, avoir des projets un peu plus longs, un peu plus complexes, un peu plus ambitieux. Et ça, c'est assez intéressant à suivre. Squeezie, il a essayé de faire du rap avec un album. Il a été très bien accompagné en production, etc. C'est un débat un peu sans fin, je trouve. Et tout dépend de l'humilité, en fait, avec laquelle ils arrivent dans un autre milieu qui est un peu différent de celui de YouTube.
Outre les soucis qu'il rencontre en ce moment avec son spectacle, c'est pas la première fois que Norman il est au centre de polémique. Il y a notamment eu, et là c'est encore plus grave, des accusations qui sont venues sur son attitude vis-à-vis de certaines, en l'occurrence ce sont des filles, spectatrices, certaines fans, si j'ai bien tout suivi.
Oui, alors ce qu'il faut savoir sur le milieu des youtubeurs aussi, c'est que le rapport aux fans a été bouleversé, en fait. C'est-à-dire, la proximité entre un youtubeur et ses fans est devenue bien plus forte que entre un acteur et ses fans au cinéma. Pour avoir de ses nouvelles, on n'a plus besoin d'acheter un magazine People, on le voit directement face caméra sur les réseaux sociaux, en story, en message privé, etc. Et en fait, sur les salons, on le voit. Moi, je me rappelle avoir été bousculé par des enfants sur un salon parce qu'il courait vers Norman qui était entouré de gardes du corps et qui se baladait comme une rockstar, lunettes de soleil sur les yeux dans les couloirs du salon. Donc faut vraiment avoir ça en tête quand on parle de ce sujet-là et sur le fait qu'il y ait des dérives. Effectivement, il y en a, c'est évident. Il y a quelques années, il y a un mouvement qui a été indirectement initié par Squeezie qui dénonçait des comportements inacceptables de la part du youtubeur vis-à-vis de fans et notamment de jeunes femmes, souvent mineures. Et en gros, ça a initié le mouvement qu'on a appelé Balance ton youtubeur, qui a eu une première grosse vague à l'époque où certains youtubeurs ont été dénoncés. Il y a eu des enquêtes journalistiques sur les sujets sans qu'on ait vraiment conscience ou connaissance des suites et de l'impact que ça a eu. Et le prénom de Norman revenait souvent dans les témoignages. Dans le milieu, il a régulièrement été visé par des personnes sur Internet. Il y avait des personnes qui trollaient, entre guillemets, qui faisaient des blagues sur le sujet, mais il y avait aussi des témoignages très inquiétants sur le sujet et qui visaient directement Norman. Et il y a quelques temps, il y a une jeune femme au Canada qui a expliqué sur les réseaux sociaux avoir déposé une plainte contre lui parce que Norman aurait sollicité via l'application Snapchat des photos d'elle nue. Ils auraient eu des échanges, ils ne se seraient jamais vus en vrai, mais via cette application, ils auraient échangé un certain nombre de photos alors qu'elle était mineure. Et elle, aujourd'hui, voilà, elle explique sur les réseaux avoir déposé une plainte. Simplement, ce sujet-là, on n'en parle pas. Alors, c'est très compliqué aussi de pouvoir parler de ce genre de sujet d'un point de vue médiatique, hein, parce qu'il faut pouvoir récupérer la plainte, confirmer aussi tout ça. Et puis, pour la victime qui a le courage de témoigner, c'est compliqué aussi, quand il y a une procédure juridique en cours, de pouvoir en parler librement. Il n'y a eu qu'une interview d'elle qui a été faite par Public. Ça explique un petit peu l'attaque qu'il y a eu contre Norman, parce que Norman, il avait déjà une réputation qui est très entachée par ces attaques-là autour du mouvement Balance ton YouTubeur. Donc ce spectacle-là, plus ces accusations-là, c'est une accumulation de problèmes pour lui. Mais pour le coup, sur le sujet de la plainte déposée à son encontre, il n'a jamais répondu publiquement, en tout cas.
Et je l'ai déjà dit, mais je le redis, pour une analyse en profondeur de ce qui se cache derrière ce fameux spectacle de Norman, lisez le long et passionnant papier qu'a signé notre invité sur la plateforme Medium. On vous mettra le lien qu'il faut dans les crédits de cet épisode. Merci à Vincent Manilev pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus.